Chapitre 4. Instruction aux serviteurs ou ouvriers. L'instruction du chapitre 3 avait plus spécialement en vue le service ou œuvre ou ouvrage, voir les versets 8, 13, 14 et 15 du chapitre 3. L'enseignement du chapitre 4 se rapporte plus nettement aux serviteurs ou ouvriers. Les croyants de Corinthe marchaient comme des hommes, chapitre 3, verset 3, et faisaient donc grand cas du jour de l'homme et du monde de l'homme. Le monde qui les entourait les avait habitués aux écoles d'opinion animées par différents philosophes, et ils étaient tentés de faire pareil et de former différents partis sous la direction d'hommes doués dans l'assemblée de Dieu. Pour corriger ces idées mondaines et ces pratiques erronées, l'apôtre place devant nous la vérité sur les serviteurs de Christ en relation avec Christ et le monde. Verset 1. Citation de l'Écriture. Que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Fin de citation. L'assemblée à Corinthe avait cherché à changer des frères ayant reçu des dons en chef de parti. L'apôtre leur rappelle que, bien loin d'être des centres de rassemblement pour le peuple de Dieu, ces hommes doués étaient en réalité des serviteurs, ce qui nous rappelle les paroles de notre Seigneur « Quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Matthieu 20, versets 26 et 27. En outre, dans la position de serviteur, il n'était pas serviteur de parti, mais serviteur de Christ. Le même mot grec se traduit aussi bien par ministre que par serviteur, et dans ce passage, ce mot implique, nous dit-on, un serviteur établi. Paul et ses compagnons de travail étaient des serviteurs établis par Christ. Ceci est très important, car celui qui établit est celui qui est craint et à qui le serviteur doit rendre des comptes. Dans le christianisme, selon l'Écriture, le vrai serviteur est serviteur de Christ et est délivré de la crainte de l'homme et il s'ensuit qu'il est en mesure d'exposer la pleine vérité avec une grande clarté. De plus, les serviteurs de Christ sont des administrateurs des mystères de Dieu. Non pas les mystères profanes du monde païen dont les Corinthiens étaient environnés, mais les précieuses vérités de Dieu, tenues secrètes au jour de l'Ancien Testament, puis manifestées en rapport avec Christ dans la gloire, et révélées par l'Esprit Saint aux apôtres et reçues par les croyants. Comme serviteurs de Christ, ils étaient les serviteurs de celui que le monde avait rejeté, et comme administrateurs des mystères de Dieu, ils étaient les administrateurs de choses que le monde, comme tel, ne pouvait pas du tout comprendre. Par conséquent, ni les serviteurs de Christ, ni les administrateurs des mystères de Dieu n'avaient la possibilité d'être populaires dans le monde. Verset 2. Citation de l'Écriture. Ici, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Fin de citation. L'apôtre continue en montrant que la grande caractéristique requise d'un administrateur n'est pas l'habileté, ni l'éloquence, ni la popularité, mais la fidélité. Ceci est en accord avec l'enseignement même du Seigneur quand il parlait de l'économe fidèle et prudent. Luc 12, verset 42. Plus tard, près de sa fin, l'apôtre peut écrire à Timothée « Les choses que tu as entendues de moi, commets-les à des hommes fidèles. » De Timothée 2, verset 2. En outre, dans notre chapitre 4, il parle de Timothée comme étant fidèle dans le Seigneur, au verset 17. Comme les saints de Corinthe, il peut arriver que nous estimions les serviteurs d'après leurs connaissances ou leurs dons, mais leur valeur spirituelle aux yeux de Dieu se détermine d'après leur fidélité. Versets 3 à 5. Citation de l'Écriture. Mais il m'importe fort peu, à moi, que je sois jugé par vous, ou de jugement d'homme, et même je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience, mais par là je ne suis pas justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ainsi, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Fin de citation. De plus, la fidélité est en rapport avec celui qui établit. C'est pourquoi l'apôtre peut dire « Il m'importe fort peu, à moi, que je sois examiné par vous, ou jugé par vous, ou de jour d'homme, ou de jugement d'homme », expression en opposition avec le jour du Seigneur. Il ne dit pas que leur jugement à son égard est sans importance, mais qu'il importe fort peu. Il ne se fie pas non plus à son propre examen de lui-même. Il n'a pas conscience de quelque mauvais mobile chez lui, mais cela ne suffit pas à le justifier de toute infidélité devant le Seigneur. Verset 4. Car lui connaît les conseils secrets du cœur et est donc seul à pouvoir estimer le degré de fidélité chez chaque serviteur. Celle-ci ne sera connue que quand le Seigneur viendra. C'est pourquoi le vrai serviteur ne cherche pas l'approbation des hommes, ni n'y attache beaucoup de valeur. Bien souvent, cela même en quoi les saints nous applaudissent, nous y trouvons l'action de la chair en quelque mobile égoïste pour lequel nous avons à nous juger devant le Seigneur. Nous ne devons donc rien juger avant le temps. La condamnation, autant que la louange des hommes, peuvent être fautives. À la venue du Seigneur, l'administration du serviteur sera appréciée à sa juste valeur. Alors, chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Cela ne veut pas dire que tous seront loués, mais plutôt que tous ceux qui seront loués le seront de la part de Dieu. Les hommes jugent d'après l'apparence extérieure. Le Seigneur prend en compte les choses cachées des ténèbres et les conseils des cœurs. Combien d'actes qui ont maintenant une apparence de grande fidélité seront alors trouvés avoir été dictés par quelque mobile indigne. Notons que l'exhortation de l'apôtre à ne rien juger avant le temps ne vise pas les paroles ou les actions des serviteurs, mais leur mobile caché. L'apôtre, dans cet épître même, juge et condamne bien franchement beaucoup de ce que ses croyants de Corinthe disaient et faisaient. D'autres passages de l'Écriture montrent clairement qu'en matière de communion, de conduite et de doctrine, les serviteurs ayant un don sont soumis à la discipline de l'assemblée au même titre que tous les saints, et que l'assemblée est responsable de juger ces questions. Hélas, n'avons-nous pas à admettre que ces exhortations ont été totalement mises de côté dans les grands systèmes organisés par l'homme dans la chrétienté, où les serviteurs, au lieu d'être établis par Christ, sont établis par des hommes ou choisis par une congrégation? Le résultat a été que les mystères de Dieu ont été presque totalement négligés et que la majorité des serviteurs s'est plutôt souciée de conserver sa popularité auprès des hommes que de maintenir la fidélité à Christ. Verset 6. Citation de l'Écriture. Or, frères, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos à cause de vous, afin qu'en nous vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit, afin que vous ne vous enfliez pas pour l'un contre un autre. Fin de citation. Ces principes quant au service et à la fidélité, l'apôtre les avait appliqués à lui-même et à Apollos pour dévoiler les abus au milieu d'eux de frères ayant un don, sans cependant mentionner aucun nom précis, ce qui évitait toute question de personne. Il voulait qu'on ne pense pas aux hommes au-delà de ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qu'on évite ainsi d'élever l'un au-dessus d'un autre. Verset 7. Citation de l'Écriture. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Fin de citation. Quant à ceux qui seraient en train de rechercher une position imméritée parmi les saints, ils demandent « Qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre ?» Si, en raison d'un don, le serviteur différait des autres en quelque manière, il n'avait rien sinon ce qu'il a reçu. S'il s'agit d'un don, Il a été donné et non pas acquis par quelque mérite. Où y a-t-il de quoi se vanter? À moins d'être proche du Seigneur et de s'être fortifié dans sa grâce, même le serviteur le plus doué est bien faible. À moins que la chair ne soit jugée par la croix et que l'esprit ne soit pas contristé selon l'enseignement de 1 Corinthiens 1 et 2, le serviteur est constamment en danger de chercher à utiliser son don pour s'élever, au lieu de l'utiliser dans la fidélité au Seigneur et pour la bénédiction de son peuple. Verset 8. Citation de l'Écriture. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Vous avez régné sans nous, et je voudrais bien que vous régnassiez afin que nous aussi nous régnassions avec vous. Fin de citation. Pour mettre à nu la folie de ceux qui cherchaient à s'exalter par leurs dons, l'apôtre établit un contraste entre la portion actuelle de l'assemblée à Corinthe et la portion future du serviteur fidèle au jour du Seigneur dont il a parlé. Le « déjà » du verset 8 « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches » est en contraste avec le « alors » du verset 5 « Alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu ». Les croyants de Corinthe cherchaient la gloire des hommes déjà maintenant dans le temps et le lieu du rejet de Christ. C'est au jour de la gloire de Christ que le serviteur fidèle aura alors la louange de Dieu. Ils avaient voulu se servir du christianisme pour s'enrichir et régner comme des rois. Mais, dit l'apôtre, c'était sans nous. Il aurait voulu que le temps du règne soit venu, mais nous sommes encore dans un monde d'où Christ a été rejeté et par lequel il a été cloué sur une croix. Dès lors, il est évident que ce n'est ni le moment ni le lieu pour que les disciples de Christ règnent en roi. La chrétienté est tombée dans ce piège corinthien, car de tous côtés les chrétiens professants cherchent la faveur du monde et tentent d'en diriger le cours et de gagner ses éloges. Verset 9. Citation de l'Écriture. Car je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort. Car nous avons été faits un spectacle pour le monde et pour les anges et pour les hommes. Fin de citation. Le fidèle disciple de Christ ne veut ni chercher ni obtenir le pouvoir ou la louange dans ce monde. Sa portion est de souffrir et d'être dans l'opprobre pour l'amour de Christ, selon l'exemple de la vie des apôtres qui est placé de manière si touchante devant nous dans les versets 10 à 13 qui suivent. En rapport avec ce monde, la portion des apôtres était très semblable à celle des malheureux voués à la mort qu'on gardait pour la dernière scène des grands spectacles romains. Les spectateurs n'étaient pas simplement des gens en train de se distraire dans un amphithéâtre, mais c'était le monde, les anges et les hommes. Il est bon en effet de se rappeler que l'assemblée est le manuel d'instruction des principautés et autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3, verset 10. En lisant ces versets, nous apprenons comment le monde considérait ses fidèles disciples de Christ, les circonstances éprouvantes qu'ils traversaient, et la manière dont le monde les traitait. Verset 10. Citation de l'Écriture. Nous, nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous forts. Vous en honneur, mais nous dans le mépris. Fin de citation. Le monde les considérait comme des fous, des faibles, et par conséquent les méprisait. Or, ils étaient contents d'être estimés fous pour l'amour de Christ. Trop souvent, hélas, nous sommes tentés, comme les croyants de Corinthe, d'utiliser notre connaissance de Christ pour paraître sages aux yeux du monde et obtenir du pouvoir et de l'honneur dans le monde. Versets 11 à 13. Citation de l'Écriture. Jusqu'à cette heure, nous souffrons et la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes sans demeure fixe, et nous prenons de la peine, travaillant de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous le supportons. Calomniés, nous supplions. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, et le rebut de tous jusqu'à maintenant. Fin de citation. Quant aux circonstances, les Corinthiens étaient rassasiés et riches. Verset 8. tandis que les apôtres dévoués étaient confrontés à la faim et la soif. Partout ils étaient nus, souffletés par les tempêtes de la vie. Ils devaient errer sans demeure fixe, prendre de la peine et travailler de leurs propres mains pour répondre à leurs besoins. Quant au traitement qu'ils recevaient du monde, ils étaient injuriés, persécutés, calomniés. Néanmoins, le traitement qu'ils recevaient servait seulement à tirer d'eux un témoignage pour Christ, car, quand ils étaient injuriés, ils bénissaient, quand ils étaient persécutés, ils supportaient patiemment, et quand ils étaient calomniés, ils suppliaient. Quant au monde, l'apôtre traitait toutes ses gloires comme une perte et des ordures. Philippiens 3, verset 8. Tandis que le monde, de son côté, traitait les apôtres comme les balayures et le rebut de tous. Verset 13. Quelle bénédiction que ces serviteurs en train de suivre les pas de leur maître, et dans leur mesure, de partager ses souffrances de la part des hommes. Selon sa parfaite estimation de leur fidélité, ils auront sa louange et partageront ses gloires dans le jour à venir. Versets 14 à 16. Citation de l'Écriture. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous ai engendrés dans le Christ Jésus par l'Évangile. Je vous supplie donc d'être mes imitateurs. Fin de citation. Cette merveilleuse description de la puissance du christianisme, comme on la voyait chez les apôtres, devait faire honte aux Corinthiens, et aussi à nous tous. Néanmoins, l'apôtre n'écrit pas pour leur faire honte, comme à des ennemis, mais pour les avertir comme des enfants bien-aimés dans la foi. Verset 14. Ils pouvaient bien avoir 10 000 instructeurs, mais ils n'avaient qu'un seul Père en Christ. Aussi, il les suppliait d'être les imitateurs de leur Père. Verset 17. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous fera souvenir de mes voies en Christ, selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Fin de citation. Pour qu'ils soient ses imitateurs, l'apôtre avait envoyé Timothée pour leur rappeler ses voies en Christ. S'il désire que nous soyons ses imitateurs, c'est seulement dans la mesure où ses voies sont en Christ, selon qu'il vient de les placer si heureusement devant nous dans le récit de la vie de serviteur fidèle. Il peut aussi dire de Timothée qu'il a démontré sa fidélité dans le Seigneur. En outre, Timothée rendrait témoignage que les voies en Christ de l'apôtre étaient les mêmes dans chaque assemblée. Dans les systèmes que les hommes se sont constitués, les manières d'agir sont selon leurs propres idées. Pour celui qui s'incline devant l'Écriture, il n'y a pas d'autre voie que celle que l'apôtre a enseignée partout dans chaque assemblée. Versets 18 à 21. Citation de l'Écriture. Or, quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller vers vous. Mais j'irai bientôt vers vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai non la parole de ceux qui se sont enflés, mais la puissance. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille vers vous avec la verge, ou avec amour et un esprit de douceur? Fin de citation. Hélas! Alors, comme aujourd'hui, certains sont enflés d'orgueil et entièrement indifférents à l'enseignement inspiré de l'apôtre. L'apôtre indique que le véritable test de leur spiritualité n'est pas dans les discours, mais dans la puissance de vie. En ce qui concerne les discours, l'apôtre met en garde un peu plus loin sur le fait qu'on peut parler comme un ange et pourtant n'être rien. Le royaume de Dieu n'est pas présenté simplement par nos paroles, mais par ce que nous manifestons de puissance spirituelle. L'apôtre demande comment il viendra vers eux. Sera-ce avec une verge pour châtier, ou avec amour et un esprit de douceur pour édifier? On peut bien se demander comment il viendrait dans la chrétienté aujourd'hui, comment il viendrait vers nous.